Oui, Seigneur notre Dieu, loué sois-tu ce matin encore pour nous reconnaître au bénéfice de ta grâce sous la nouvelle alliance, Seigneur. Loué sois-tu ce matin encore que tu nous rappelles que tu as voulu non plus écrire les lois sur des tables de pierre, mais les écrire sur des tables de chair, sur notre cœur, Seigneur. Et c'est toi qui en as voulu ainsi. Loué sois-tu, Seigneur, que tu nous aies permis par la présence de l'Esprit que tu as mis en nous, d'avoir cette communion avec toi pour être au service de ta grâce, Seigneur. Ce matin, je te prie que tu nous accordes à chacun encore d'écrire les mots qu'il faut, les paroles qu'il faut, les idées qu'il faut sur les tables de notre cœur que tu connais tellement bien, Seigneur. Amen. Une question peut-être avant une lecture. Si vous deviez justement décrire ce qui motive le plus l'amour de Dieu pour vous dans la perspective à venir, dans la perspective des choses à venir, pas dans tout ce que Dieu a déjà fait pour nous, mais quel serait l'élément majeur sur lequel vous voudriez insister pour dire l'amour de Dieu, dans les temps à venir, ça se focalise pour moi là-dessus. Je ne sais pas si vous avez une idée. Peut-être une mauvaise question, hein, peut-être mal posée. Qu'est-ce qui focalise votre amour, votre passion de Dieu dans les temps à venir? Comment? Il a le temps dans sa main. Un fait doctrinal précis que nous attendons. Son retour, ouais. Merci. Son retour que nous attendons. Je voudrais aussi commencer une petite série comme ça sur le retour de Jésus-Christ. Parce que c'est vrai que de temps en temps, il y a des frères et sœurs qui disent « On ne parle pas assez du retour de Jésus-Christ dans l'Église. » Je crois qu'on parle du retour de Jésus-Christ. Hein. Ce matin, on a chanté des cantiques, on a parlé du retour de Jésus-Christ, on a évoqué des choses qui parlent du retour de Jésus-Christ. On a pris la Sainte Cène et évoqué le retour de Jésus-Christ. On parle du retour de Jésus-Christ, mais c'est vrai que les aînés nous diraient que le retour de Jésus-Christ, c'est quelque chose qu'on abordait tous les dimanches dans les églises avant. Hein, si vous prenez les aînés, vous allez les trouver, vous dites, de quoi on parlait le dimanche? Chaque dimanche, on évoquait le retour de Jésus-Christ dans les églises quand j'étais jeune. C'est vrai qu'on en parle moins, peut-être. Je voudrais, pour des raisons personnelles aussi, peut-être, évoquer tout ce qui tourne autour du retour de Jésus-Christ. Parce que nous avons eu le privilège, le week-end passé, de passer du temps avec tous nos enfants réunis, Viviane et moi. Et c'est toujours un moment où nous sommes dans la joie de nous retrouver avec eux. Dieu merci, je pense que la vie de mes enfants est une vie bénie dans l'ensemble, mais chaque fois que je me sépare d'eux, il y a pour moi toujours et toujours le même constat. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ça revient tout le temps. Ils ne sont pas prêts. Et ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ne sont pas disciples de Jésus-Christ. Ils ne sont pas prêts pour son retour. Et quand je pense à ces choses, c'est vrai que la question se pose aussi de me dire, et nous, parents, mon épouse et moi-même, sommes-nous prêts? Et la question se pose aussi, moi, directement, moi, tout seul, suis-je prêt pour le retour de Jésus-Christ? Je voudrais que, en fait, ce matin, ce soit plutôt une introduction à ce thème tellement important du retour de Jésus-Christ, pour aller un petit peu plus loin par la suite, parce que je pense aussi que, sans aucun doute, il y a des éléments qui sont mentionnés dans la parole de Dieu et qui sont d'une convergence extraordinaire, inouïe, avec les événements que nous vivons aujourd'hui au quotidien. Et nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à être attentifs à ces signes que le Seigneur nous montre et aux signes qui se produisent dans les temps où nous vivons aujourd'hui. Alors, on va commencer une lecture assez longue, je sais, et elle met vraiment la dimension à tout ce qui va se produire, se passer dans ces événements tout à fait décrits de manière précise dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. On va lire pratiquement tout ce chapitre. On va lire à partir du verset 3. Mais merci, Jaco. On lira jusqu'au verset 44. Peut-être que je propose que, comme c'est un texte assez long, que les uns et les autres, vous puissiez lire à la suite 3-4 versets chacun. Ce serait bien. Je vais commencer. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il » Ce sont les disciples qui parlent à Jésus. « Et quel sera le signe de ton avènement et le signe de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ !» Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, mais gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Merci beaucoup pour cette longue lecture. Je crois que c'était précieux de remettre en place toute cette histoire faite de toute une série d'événements, de détails précis, dans tous les domaines, mais qui annonce avec une clarté extraordinaire. Jésus-Christ revient. Le monde s'arrête un jour tel qu'il fonctionne, comme il fonctionne maintenant. Vous savez, je pense qu'il est effectivement important de se rappeler que c'est une promesse certaine, le retour de Jésus-Christ. C'est une promesse évidente. Il nous arrive souvent, quand nous lisons des passages dans la parole de Dieu, d'attacher plus d'importance à un élément plutôt qu'à un autre. Vous savez qu'il y a des communautés comme ça qui se focalisent vraiment sur certains points doctrinaux et qui occultent presque tout le restant. Vous savez que ça nous arrive aussi parfois lors de nos lectures de voir là un petit point un peu moins important qui est en périphérie des éléments doctrinaux importants de l'Écriture, de la parole de Dieu. Et puis souvent, on peut se braquer sur un petit point comme ça et quelque part lui donner une importance qu'il n'a pas et finalement donner sur le reste de l'Écriture une vision déformée. Vous savez aussi que il nous arrive régulièrement de rester, par manque de connaissances, bloqué sur certaines choses que la parole de Dieu nous dit, parce qu'on perd l'ensemble de ce que dit la parole de Dieu. On tire certains passages d'un contexte, on est troublé par ce qu'ils disent, parce qu'on les sort du contexte global de l'Écriture. C'est possible avec une multitude de choses. C'est impossible en ce qui concerne le retour de Jésus-Christ dans sa gloire. Et il n'est pas possible d'avoir une interprétation erronée sur cette réalité. Oui, un jour, Jésus-Christ revient dans sa gloire quand on lit les Écritures. C'est omniprésent. Toute l'Écriture est focalisée sur la venue de loin de l'Éternel, du Messie, du Dieu qui vient dans sa gloire. Elle se concentre dans sa deuxième partie sur le retour de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, nous venons de partager la Sainte Cène. Vous savez qu'à l'occasion de la Sainte Cène, nous citons souvent des textes, des versets qui se trouvent dans le chapitre 53 du livre d'Ésaïe. On trouve comme titre, dans les Bibles en général pour ce chapitre-là, « Le roi serviteur souffrant ». Alors, on cite ces passages parce que c'est dans ce texte-là qu'il nous est dit que Dieu a pris sur nous nos fautes, nos iniquités, nos maladies. Pourtant, dans le même livre d'Ésaïe, au chapitre 2, on lit un texte qui parle de celui que les Juifs attendaient, qui est totalement différent. On dit que dans l'Ancienne Alliance, pratiquement la moitié de toutes les prophéties concernent la venue du Messie, la venue de loin de l'Éternel. Et pour les Juifs, en général, on attendait quelqu'un d'autre que le serviteur souffrant. On attendait ce que nous lisons ici au chapitre 2. « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et ils diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Voilà ce qu'on attendait en Israël. Loin de l'Éternel, le Messie, celui qui transformait tout, celui qui allait être là à Jérusalem, le Dieu, roi des rois, celui qui allait changer ce qui normalement donnait la guerre en quelque chose qui donnait la nourriture, quelque chose qui donnait la paix. C'est celui-là qu'on attendait. C'est ça qui occultait la vision du peuple juif de l'époque. C'est ça que les disciples avaient tellement difficile à comprendre, quelle était réellement la tâche de Jésus-Christ, quel était vraiment le pourquoi de ce qu'il était venu. C'est ça qui bloquait les oreilles et les yeux des juifs et des disciples de l'époque. C'est ce texte-là qui parlait des venues d'un Messie glorieux. Dans le Nouveau Testament, citer des chiffres, c'est parce que les chiffres et l'importance des chiffres parfois nous interpellent. Dans le Nouveau Testament, j'ai lu que quelqu'un dit qu'il y a 319 versets qui parlent du retour glorieux de Jésus-Christ. 319 sur le petit Nouveau Testament. C'est-à-dire que quand vous comptez l'ensemble des versets, on peut dire qu'en général, c'est une fois par 25 versets, paf, il y a un verset qui fait référence au retour glorieux de Jésus-Christ. Ça veut dire que sur chacune de mes pages ici, moi j'ai à peu près 80 versets, donc sur chaque fois que je tourne une page, il est censé avoir, ils sont pas mis dans cet ordre-là évidemment, mais il est censé avoir 3 versets qui annoncent le retour glorieux de Jésus-Christ. Vous connaissez, on vient de lire tout ce long chapitre de Matthieu 24, mais Matthieu 25, c'est la même chose. Des chapitres entiers annoncent en détail le retour de Jésus-Christ. Dans le petit évangile de Marc 16, chapitre, tout un chapitre, le chapitre 13, le chapitre 17, le chapitre 21 de l'évangile de Luc, nous parle du retour de Jésus-Christ. Des paraboles entières, les dix vierges folles et sages, la parabole des bons, des mauvais ouvriers, une série de paraboles qui parlent du retour glorieux de Jésus-Christ. Quand nous lisons les épîtres, nous sommes constamment interpellés par cette assurance omniprésente chez ceux qui écrivent les épîtres, Jésus revient bientôt. Votre Sauveur revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt dans sa gloire. C'est ce qui motivait toute leur action. Et si, dans nos églises peut-être, le retour de Jésus-Christ est devenu un point doctrinal qui est passé un petit peu aux oubliettes, eux, c'était le message fondamental et principal qu'ils faisaient sans arrêt passer. Jésus-Christ revient bientôt. J'en veux pour preuve, on aurait pu en prendre toute une série, hein, mais par exemple, dans la première épître à Thessaloniciens, au chapitre 1, les versets 9 et 10, l'apôtre Paul parle et dit, « On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » L'apôtre Paul rend grâce pour cette église où des gens et des hommes se sont convertis, ont changé de priorité de vie pour attendre celui qui va revenir dans sa gloire et les faire échapper au jugement à venir. Ou bien, un petit peu dans une autre épître, comme l'épître aux Romains, peut-être encore plus poignant et plus interpellant pour nous, chrétiens de 2000 et des ans après. Chapitre 13, versets 11 et 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes des lumières. La nuit est avancée, le jour approche du retour glorieux de Jésus-Christ. Les temps sont avancés, dit ce texte. C'est vrai que très probablement, c'est un texte qui nous parle encore bien davantage qu'à la communauté de Rome à laquelle elle s'adresse à l'époque. Les temps sont avancés, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, parce que le jour approche. Peut-être, première remarque ce matin, cette promesse, c'est probablement la plus évidente de l'Écriture. Jésus-Christ revient. Peut-être que pour nous, ce matin, il est important de nous rappeler cette réalité-là. Pourquoi ? Parce que si vous lisez les Épîtres, vous voyez que presque toujours, c'était cette vision du retour de Jésus-Christ dans sa gloire qui motivait, conditionnait le comportement de l'Église. En fait, c'est parce que les chrétiens voient le retour de Jésus-Christ qu'ils ont une certaine démarche. On l'a rappelé sous la deuxième alliance, nous avons cette proximité de Dieu vivant en nous par son esprit. Ok, mais la perspective de tout ce qui sera renouvelé dans la gloire au retour de Jésus-Christ, ça c'est ce qui motivait les chrétiens, c'est ce qui doit nous motiver à nous. C'est ça qui, lorsque nous sommes prêts de tomber, c'est de cette vision-là que peut venir la force de ne pas chuter, de ne pas pécher, de choisir une autre voie. C'est cette vision-là aussi qui doit nous donner que lorsque nous sommes dans des moments de difficulté, lorsqu'on croit qu'il n'y a plus rien qui va, lorsqu'on est dans l'épreuve, lorsqu'on est dans la tristesse, cette perception, Jésus-Christ revient bientôt dans sa gloire, doit donner sur les événements que nous vivons un regard différent. C'est ça, je pense, qui fait que ces frères et sœurs qui sont persécutés aux quatre coins du monde ont cette puissance de résister à la persécution parce qu'ils ont les yeux tournés vers le retour glorieux de Jésus-Christ. Ce matin, peut-être qu'il est important pour nous de vraiment nous rappeler cette réalité, la saisir, la garder, vivre l'épreuve ou le péché d'une manière différente, parce que Jésus-Christ arrive bientôt dans sa gloire. L'apôtre Paul disait aussi, je t'ai pas donné ce texte, Jacques, juste un verset dans l'épître aux Philippiens, c'est le chapitre 1, le verset 20, il disait aussi, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. C'est la même chose. Ma ferme attente et mon espérance, c'est la rencontre avec le Seigneur glorieux. C'est le retour glorieux de Jésus-Christ. Ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. C'est vrai, mes amis, si quand je parle de l'Évangile, si quand je parle à quelqu'un, quand j'évoque l'Évangile avec quelqu'un, si cette perspective du retour glorieux de Jésus-Christ était là, combien peut-être ma motivation serait différente. Ah, les amis qui sont au marché, quand vous êtes au marché là-bas et que vous dites, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit répondre, ne pas répondre. Si cette vision-là, cette perspective du retour glorieux de Jésus-Christ est là devant vos yeux, quelle différence, quelle dynamique différente. Pourquoi Jésus-Christ revient-il? Pourquoi Jésus-Christ revient-il? Bon, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Il revient pour plusieurs choses. Mais quand même, il y a une chose qui est peut-être, on va dire, en tout cas en ce qui concerne les chrétiens, préférentielle, la chose qu'il a le plus sur le cœur, me semble-t-il. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est pour ça. Une des raisons fondamentales pour lesquelles Jésus revient, c'est pour venir chercher tous ceux qui se sont attendus au salut en lui. D'ailleurs, Jésus va dire la même chose. Vous savez que c'était un petit peu difficile, puisque Jésus devait faire comprendre à ses disciples qu'il était venu pour souffrir, pour mourir, qu'après il allait ressusciter, que c'est là justement qu'allait se faire l'alliance nouvelle. C'était un peu difficile de parler de sa venue glorieuse. Mais quand même, s'il a évité le sujet avec ses disciples, dans la dernière semaine où il était avec eux, il l'a abordé. Et là, il a mis les mêmes circonstances en évidence. Il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, c'est les versets 2 et 3. Je pense, hein. Verset 2 et 3, on va voir. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus revient pour ça. Il va préparer une place, il revient, il vient chercher ceux qui sont les siens et ils ont une place qui leur est prédestinée, qui leur a été préparée. Et c'est pour ça qu'il revient. La question qui se pose, c'est, est-ce que Jésus revient pour toi? Est-ce qu'il revient pour moi? Est-ce qu'il vient te chercher? Est-ce qu'il vient me chercher? On peut poser la question autrement. Est-ce que je suis disciple de Jésus-Christ? Il s'adresse à ses disciples quand il dit « Je viens vous chercher, je prépare une place, puis quand j'ai préparé la place, je vous reprends. » Est-ce que je suis disciple de Jésus-Christ ou est-ce que je suis autre chose? La question se pose, encore autrement, est-ce que je crois effectivement, puisqu'il vient chercher ceux qui ont mis leur espérance de salut en lui, est-ce que Jésus-Christ est le seul espoir de salut que j'ai, ou j'en ai plein d'autres, d'autres idoles, d'autres piliers, d'autres soutiens, d'autres refuges, ou bien est-ce que Jésus-Christ est le seul objet de mon salut? La question se pose, la réponse que je donne à cette question, elle détermine si Jésus revient pour moi ou s'il revient pour quelqu'un d'autre. Peut-être, c'est quoi alors être disciple, hein, revenir pour ceux qui ont mis leur confiance en lui, revenir chercher ses disciples pour lesquels il a préparé une place, c'est quoi être disciple? Je pense qu'on sait bien, hein, être disciple, le disciple d'un maître, c'est quelqu'un qui entend, qui écoute et qui suit le maître. Ça s'est passé comme ça toujours avec tous les disciples qui ont suivi Jésus-Christ. Ah, on prend les premiers disciples, Jean, Jacques, Simon, Marc, Matthieu, tous ces gens-là avaient une vie particulière. Jésus a croisé leur chemin, Jésus les a appelés par leur nom et ils ont changé de vie. Ils ont laissé les choses de la première vie pour les choses d'une autre vie. Hein, je ne pense pas que ça veuille vraiment dire qu'ils ont changé de métier. Ici, en l'occurrence, ils ont aussi changé de métier. Oui, ok. Mais ils ont changé leur manière de vivre avant pour avoir une autre manière de vivre avec Jésus-Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Je pense que si nous sommes convertis, nous savons ce que ça veut dire, qu'il y avait une vie avec un avant Jésus, avec des priorités particulières, avec des visions particulières, avec des modes de vie particuliers. Et puis, après Jésus-Christ, il y a eu une autre espérance, il y a une autre priorité, il y a une autre manière de vivre. Tout le monde qui est disciple, je pense, sait mettre cette barrière-là à dire « ça c'était avant ». Et maintenant, c'est après Jésus-Christ. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs personnes qui voudraient suivre Jésus, qui voudraient être disciples, mais qui ne le font pas parce qu'ils restent attachés vraiment à des choses qui pour eux sont plus importantes que Jésus-Christ. Et le fait d'être disciple ou pas ne dépend pas des conditions que Jésus donne. Il ne donne pas des conditions A, B, C, D à l'un, à l'autre et à l'autre. C'est les mêmes conditions. C'est changer. Si je n'entre pas dans ces conditions-là, je ne suis pas disciple de Jésus-Christ. Je pense qu'un autre élément fondamental qui caractérise la vie d'un disciple, c'est le regard qu'il a sur lui-même. Pas le regard que j'ai sur vous, sur les autres chrétiens, sur les gens du monde, le regard que j'ai sur moi-même. Le regard tel qu'on vient encore de l'avoir au moment de nous présenter à la scène, au moment où Adrien nous dit « pas de fierté, pas de fierté ». Je pense que le disciple a un regard réel sur ce qu'il est. C'est ce qui s'est passé, hein. Si on prend l'apôtre Pierre, par exemple, ça va bien, c'était quand même le gars qui avait un peu la grosse, hein, c'est le gars qui savait bien se manifester, qui avait la réponse à tout, qui était rapide, qui était alerte, c'était un gars qui savait où il voulait aller. Et pourtant, dans la barque, dans la présence avec Jésus, en quelques minutes, il lui dit, retire-toi de moi, Seigneur, retire-toi de moi. Parce que je suis un homme pécheur. Tous les disciples passent par ce stade-là, ce regard réel. Comme a dit Marilus tout à l'heure, ce qu'on nous a dit à la retraite, ce regard de toute notre laideur devant la beauté de l'amour de Christ qui nous regarde. Tous les disciples passent par ce regard sur eux. C'est ça qui les amène à dire, je comprends maintenant pourquoi Christ est venu. Je comprends pourquoi il est mort. Je comprends pourquoi il est ressuscité. Parce que j'ai le vrai regard sur ma nature pécheresse et ma nature loin de Dieu. La troisième, peut-être, caractéristique qui va faire de nous un disciple, c'est la vie nouvelle qui est caractérisée par la présence de l'Esprit de Dieu en nous. L'apôtre Paul va dire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 9, il dit... Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Être disciple, c'est avoir en soi l'Esprit de Dieu. C'est justement ce qu'on a fait référence ce matin. C'est, sous la Nouvelle Alliance, avoir cette relation d'intimité avec Jésus-Christ par son Esprit. Et c'est ça qui fait cette transformation dans nos vies. Être disciple, ce n'est pas, comme on l'a dit, je suis fier de mes œuvres parce que je fais ceci, j'ai passé une bonne journée parce que j'ai bien fait, oh ça c'était moins bien parce que j'ai mal fait. Être disciple, c'est pas ça. Être disciple, c'est être conscient que par ma relation d'intimité avec Jésus-Christ, l'Esprit agit en moi. L'Esprit me transforme, l'Esprit me donne des forces nouvelles, l'Esprit m'amène à pouvoir lutter contre une faiblesse, contre un péché. Ces trois éléments caractérisent la vie de disciple. Est-ce que, quand Jésus-Christ revient, il vient pour toi, il vient pour moi? Est-ce que tu es disciple? Est-ce que je suis disciple? Le disciple écoute son maître. Il y a son avant et après. Le disciple est celui qui a la présence de Dieu en lui. C'est cette présence-là qui l'éveille parfois la nuit, qui attire l'attention sur certaines choses, qui lui montre certaines choses en ces temps de communion, de prière avec le Seigneur. Et le disciple a ce regard authentique sur son péché, sur sa nature indigne du Seigneur. Si tu es disciple, bonne nouvelle, alléluia, le Seigneur revient pour toi. Le jour où il revient dans sa gloire, il te prend, il t'amène avec toi. Et si tu n'es pas disciple, bonne nouvelle aussi, mais réfléchis quand même. Bonne nouvelle aussi parce que aujourd'hui est encore le jour du salut, jusqu'à ce que le retour du Seigneur s'effectue dans sa gloire. D'un côté, on a envie de ça, et puis d'un autre côté, on dit, pour ceux que j'aime, pour ceux que je connais, Seigneur, attends encore un peu. Bonne nouvelle dans les deux cas, mais réfléchissons. Réfléchissons, car les temps sont comptés. Dans le texte que nous venons de lire, c'est un texte qui se situe à Jérusalem. Le texte qu'on a lu là tantôt, faut pas le remettre, Jacob, mais le long texte qu'on a lu en Matthieu 24. Le début du passage se situe lorsque les disciples ils sortent du temple. Il y a encore eu vraiment des discussions avec les scribes, avec les pharisiens. C'est des discussions bien engagées. Et on dirait un petit peu que quand on lit le texte, les disciples ils veulent un peu changer de sujet. Hein, on dirait qu'ils sortent de Jérusalem et là il y a les murs, il y a les temples, c'est magnifique et ils disent au Seigneur, waouh, regarde quel édifice quand même, hein, quelle construction extraordinaire. Et là Jésus va leur dire. Construction extraordinaire, mais vous savez, je vais quand même vous dire, hein, que dans peu de temps, tout ça, ça va être rasé. Tout ça, ça va disparaître. Alors bon, bien sûr, le fait que Jésus dit ça, ça pique un peu la curiosité des disciples. Et alors, ils vont un petit peu plus loin et ils disent, par où on a commencé le texte, ils disent, dis-nous, c'est quand que ces choses vont arriver. Dis-nous, c'est quand les temps de la fin? C'est quand la fin du monde? Dis-nous, c'est quand l'avènement de ton royaume? Et chose extraordinaire encore que je veux rappeler, mes amis, c'est que Jésus n'a pas dit « Arrêtez de dire des bêtises, de quoi vous parlez, et de fin du monde, et de retour de Jésus-Christ, d'avènement du royaume, arrêtez de dire des bêtises !» Non. Il a saisi l'occasion pour faire cette tirade de 60 versets là, enfin que nous avons à 60 versets, pour raconter toute une série de signes précis qui vont se produire dans des sphères précises, toutes différentes, des sphères spirituelles, des sphères économiques, des sphères astronomiques. On va revenir sur ces éléments dans les thèmes suivants. Mais aujourd'hui, ce sur quoi je voulais attirer l'attention, c'est de cette remarque sur laquelle se focalise le verset 44. Tenez-vous prêts, parce que vous ne savez pas l'heure à laquelle le Fils de l'homme vient, et en plus, il viendra au moment où vous n'y pensez pas. Tenez-vous prêts. Je pense que dans ce verset-là, il y a trois choses importantes. La première, c'est qu'on mesure bien cette notion de patience. On voit dans ce verset, tous ceux qui ont écrit les épîtres s'attendaient au retour imminent de Jésus-Christ. Nous, 2000 ans plus tard, nous savons que ce n'est pas un retour imminent. Il y a du temps. Quel temps? Mais il y a du temps. Ce verset nous met déjà en garde contre la longueur du temps. Vous savez, quand vous êtes sensible à une idée, bon, ça dure un certain temps. Quand vous prenez un nouvel engagement, ça dure un certain temps, et puis avec le temps. Ce verset nous met en garde que notre vie chrétienne, notre vie de disciple, reste quelque chose qui est fondé, axé sur la patience. Savoir attendre ce qui est promis. Savoir attendre ce qui a été dit. Peut-être un deuxième élément, c'est que non seulement ça fait référence à la patience. Mais ce texte aussi nous rappelle que ça doit être quelque chose de central. Être prêt à quelque chose de grand, quelque chose de central. Donc cette centralité-là, cet événement, retour de Jésus-Christ, ça doit vraiment être un phare allumé de manière omniprésente. Le troisième élément peut-être qu'il y a ici dans ce verset et qui rejoint le reste du passage, c'est que nous avons une intelligence, nous avons des yeux pour voir, un cerveau pour réfléchir, des oreilles pour entendre. Et le Seigneur a pris soin de donner tout un descriptif de choses précises qui devaient s'accomplir, qui devaient arriver, qui devaient se réaliser. Et nous appartient, puisque nous sommes prévenus, à analyser les temps où nous vivons. Ça, c'est peut-être l'autre élément de ce verset et de ce texte dans sa globalité. Il nous appartient d'analyser les temps où nous vivons. Oh, on sait que c'est compliqué. Hein. Lors de ce week-end en famille, il y avait un des fils qui disait à sa maman, il disait, de toute façon, avoir des enfants dans notre monde, oh là 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 là. Oui, justement. Quelle perspective différente d'avoir des enfants dans ce monde quand on voit tout ce qu'on voit, ou d'avoir des enfants dans ce monde quand on sait que le Christ va revenir glorieux bientôt. Quelle dualité, quelle différence. Ce texte évoque pour nous toute une série de signes. Vous savez, quelque part, le Seigneur dit, ceux qui s'occupent de la terre et du climat, ils regardent les choses. Quand ils voient que le ciel est comme ça, ils savent que demain il fera beau, ou que demain il y aura de la pluie, ou que demain il y aura du vent. Et c'est aussi dans le texte qu'on a lu, il est dit, vous, quand vous voyez le figuier qui approche du printemps, vous sentez que ses branches se ramollissent, vous sentez que les petites feuilles apparaissent, eh bien voilà, vous savez que le printemps arrive et que vous avez bientôt les feuilles. C'est la même chose ici. Il nous est donné toute une série de signes qui nous appartient, auquel nous appartient d'être attentifs, d'analyser, d'ouvrir les yeux et les oreilles, et peut-être de mesurer que nous sommes proches de l'avènement de Jésus-Christ. En fait, dans ce verset ici, le Seigneur insiste à ce que nous soyons prêts. Nous sommes un petit peu comme une sorte de guetteur qui est sur une muraille et qui regarde là, qui se focalise sur la gloire du Seigneur qui revient bientôt. Et ça nous donne une perspective toute différente. C'est un petit peu comme si, entre la muraille et ça, ben là, il y a nos problèmes de vie, là, il y a nos chutes, là, il y a nos faiblesses, là, il y a nos péchés, là, il y a nos tentations. Mais le fait d'être guetteur et de guetter cet événement-là nous donne, sur tous ces autres événements, un regard totalement différent. Nous sommes appelés à vivre comme des guetteurs. Est-ce que nous sommes guetteurs? Est-ce que nous sommes sur cette muraille, sur ce poste de guet, avec notre attention portée sur cet horizon, le retour glorieux de Jésus-Christ? C'était l'introduction ce matin. J'aurais voulu, après, qu'on puisse aller un petit peu plus en détail dans des notions qui sont évoquées ici, à propos peut-être des choses qui arrivent, des choses que nous vivons, et voir un petit peu comment on peut analyser ça par rapport à ce que ces textes disent. Nous allons prier, si vous le voulez bien. Seigneur, ce matin, tu nous rappelles cette évidence omniprésente dans ta parole. Tu nous rappelles que ton retour est annoncé, que tu reviens bientôt, que tu reviens dans ta gloire, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, encore nous nourrir de cette réalité. Nous voulons, Seigneur, vraiment être disciples, maintenir notre façon d'être disciple ou devenir disciple, Seigneur. C'est-à-dire voir dans notre vie un avant et un après Jésus-Christ. Être des hommes et des femmes qui se voient tels qu'ils sont devant ta gloire et ta splendeur. Être des hommes qui sont habités de ton esprit et qui communient avec toi par ton esprit. Nous voulons, Seigneur, être prêts, c'est vrai, pour le jour de ton retour. Nous voulons, Seigneur, te demander de nous garder guetteurs sur cette muraille, de voir constamment devant nous cette approche, ton retour glorieux. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous donnes la patience, la vigilance, que tu nous donnes d'être gardés fidèles, Seigneur. C'est aussi une chose que nous avons le privilège et la liberté de te demander, Seigneur. Garde-nous encore fidèles, fortifie notre fidélité, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.